Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Nous recevons encore aujourd'hui le docteur Claude Gervais, qui est réanimateur et qui va nous parler de l'histoire et de l'évolution de sa spécialité et peut-être de la médecine interne, mais pas trop de la médecine interne. Il vient de me dire non, pas trop de la médecine interne, parce qu'il est qualifié en médecine, en réanimation médicale, mais aussi en médecine interne. Mais en fait, tu n'en as pas fait. Enfin, tu en faisais au lit du malade, parce que tu en faisais, mais il n'y avait pas de consultation de médecine interne.
J'en ai fait. Quand même. J'en ai fait au CHU, ici, à Nîmes.
À Nîmes,
officiel.
Bon, d'accord, mais en fait, sa principale activité, c'est la réanimation médicale, et c'est là où il s'est vraiment, investi. Alors, bonjour à toi, Claude, et merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Alors, en premier lieu, peux-tu nous définir la réanimation médicale? On l'a fait un peu dans notre première présentation, qui était un peu centrée sur ton expérience et ta vie, et les différences entre réanimation médicale et réanimation chirurgicale.
Bah, c'est simple, hein, la réanimation médicale. Il n'y a pas d'acte chirurgical qui précède les décompensations des organes vitaux, quoi. C'est des patients qui... C'est pas la traumato.
Quand un rein est défaillant et qu'on a une insuffisance rénale, la chirurgie est inefficace.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ce qui définit la réanimation chirurgicale, c'est qu'il y a eu de la chirurgie.
Ah, il y a eu de la chirurgie, voilà. Mais la réanimation médicale...
Il n'y a pas eu de chirurgie aiguë.
C'est l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a une insuffisance rénale, il n'y a pas de chirurgie.
Les origines médicales.
Voilà, c'est les origines médicales. Ouais. C'est-à-dire, c'est les décompensations graves.
Oui,
tu nous disais dans la précédente émission qu'il y a un, deux, voire trois problèmes graves de défaillance d'organes.
Le rein, le cœur et le poumon.
Voilà, donc là, il y a une défaillance de ces trois organes qui sont vitaux. Si on les prend individuellement, ils sont vitaux. Mmh. Et donc, il y a une défaillance des trois qui plonge le patient dans une potentielle de mort.
90%. Si tu as les trois réunis et si tu ne mets pas les appareils qu'il faut, c'est 90% de décès.
Mmh.
Donc, il y en a un petit peu qui s'en sortent. Hein,
oui, il y a des pourcents. Mais donc, vous êtes quand même des praticiens. C'est important pour notre troisième émission. Mais vous êtes des praticiens qui sont en contact avec la mort potentielle.
Tout à fait.
Alors que les praticiens de soins palliatifs dont j'étais, ils étaient en contact avec la mort, mais si vous me permettez l'expression, programmée. C'est-à-dire qu'on savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, ce qui était à faire, c'est ce qu'on pouvait faire pour la qualité de vie, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus pour le... Tandis que la réanimation médicale, c'est tout autre. On fait pour la qualité de vie du malade, mais aussi pour qu'il revive et qu'il ait un futur de vie. Donc, et les patients, bien qu'on a donné le chiffre de 20% de décès dans la réanimation médicale, mais 80% ressortaient de l'hôpital et avaient une nouvelle vie, un nouveau futur. Donc c'est quand même très important et c'est une spécialité qu'il faut éclairer. Alors, tu nous as dit que tu étais médecine interne. Pourquoi tu avais choisi de faire un peu de médecine interne?
Non, ce n'est pas un choix, c'est une validation automatique sur la base du cursus que tu as eu.
Voilà, tu avais fait des stages. Donc
Fait des stages, tu en as besoin. Si tu veux faire une consultation comme j'ai fait au CHU pendant quelques années, il fallait que je puisse valider, avoir dit, j'ai la médecine interne.
Quoi. Voilà. Alors, l'animation médicale est née en France en 1954. Elle représenta dès lors une nouvelle médecine. Et c'est une nouvelle médecine, une nouvelle façon de voir la médecine qui vient révolutionner la thérapeutique et le pronostic des maladies aiguës avec défaillance des fonctions vitales. La pratique de cette discipline, fondée sur une approche physiopathologique et bioclinique, des signes de gravité sur les moyens techniques lourds, les plus modernes, au premier rang desquels figurent en première mondiale le rein artificiel et la respiration assistée par appareil mécanique, a renouvelé notre conception de la pathologie interne et ouvert la voie à une nouvelle pensée médicale. Alors c'est François Vachon, professeur de médecine, chef de service clinique de réanimation des maladies infectieuses, qui nous le dit à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Alors Claude, peux-tu nous rappeler, certes brièvement, l'histoire et l'évolution et évoquer les pères fondateurs de cette spécialité qui est la réanimation médicale?
Alors, tu viens de citer François Vachon. J'ai une pensée pour lui. Je l'ai connu tous les jours quand j'étais dans le service de Claude Bernard, du professeur Vic Dupont. C'était un professeur très sympathique, qui n'était pas en première ligne. Il avait déjà pris du recul, mais il était surtout infectiologue.
Mais je trouve que sa définition était très bien.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il était dans le service de professeur Vic Dupont, qui est une des figures.
Alors qui sont les pères fondateurs?
C'est simple, professeur Homburger pour la néphrologie.
Alors on le connaît moins que son fils. Son fils, c'est
Michel Berger.
Voilà.
Moi je l'ai connu parce que mon oncle voulait me le faire connaître pour que j'avance dans ma carrière d'interne des hôpitaux de Paris. Je l'avais pas trouvé. Il était très austère. Il m'a fait un peu peur.
Ouais.
Mais c'était un grand monsieur. Les autres grands monsieur, c'est le professeur Mollaret, qui était le grand infectiologue de l'hôpital Claude Bernard, et qui a eu à faire face, et c'est là le début, si tu veux, tu n'as pas cité la maladie qui est la maladie principale auquel on était confronté, c'est la polio.
Oui, parce qu'à l'époque, il y en avait maintenant
énormément de polio. On n'avait pas de respirateur, il y avait des poumons d'acier. C'est un peu comme un caisson hyperbare, un truc infernal, qui avait sauvé quelques patients. Mais il se trouve qu'un médecin danois, le docteur Lassen, qui a maintenant son nom dans tous les hôpitaux parisiens.
Avec un nom comme ça, c'est normal qu'il soit connu à Paris.
Il a inventé un respirateur.
Oui.
Qui s'appelle Lengström,
qui a révolutionné la respiration artificielle.
Chez Goulon, on voyait encore des patients qui venaient faire des séances, parce que la polio, c'est terrible, parce que ça laisse des séquelles énormes. Même si on sauve les vies, mm-hmm. tu vois, la qualité de vie, des fois, elle n'est pas toujours...
Oui, moi, j'ai connu, dans mon enfance, je n'étais pas encore dans un cursus pour être médecin, mais des gens qui avaient eu la polio, donc ça faisait dans les écoles, quand il y avait un cas de polio, c'était la révolution, quoi.
Ouais,
hein.
Ouais.
Donc, tout le monde avait son sucre, hein, parce que... Et donc, il laissait des séquelles, même quand les gens s'en sortaient. En principe, c'était des jeunes qui avaient, puisque les anciens... Et donc, c'était des pathologies qu'on ne connaît plus maintenant. Quoi. C'est comme les goitres thyroïdiens en Lozère. Moi, j'ai connu des dames avec des goitres de 3, 4, 5 kilos. Quoi, hein. Donc maintenant, on n'en voit plus. Hein, quand les échographistes voient un goitre de 3 cm, ils sont affolés. Donc, c'était pas du tout la même pathologie qu'on peut rencontrer actuellement. Je dis pas que les pathologies émergentes, comme Ebola qui est rentré en France ou autre, c'est mieux. Hein, je veux dire, mais c'était une autre ambiance. Donc, ce sont les pères fondateurs et ils ont créé cette spécialité. Comment
ils étaient tous au même endroit. Le professeur Mollaret, c'était le grand chef. Les trois jeunes, c'était le professeur Rapin, le professeur Goulon et le professeur Lissac, et un chercheur que j'ai connu. J'ai travaillé avec lui pensant que j'allais rester dans son service, le professeur Possidalo, qui prenait des chiens, et ça m'a foutu la trouille aussi. Je suis arrivé dans son labo et il saignait des chiens pour enregistrer les pressions artérielles. Oui. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi ça.
Et mais oui, il faisait beaucoup d'expériences animales.
Oui. Et donc, ces trois grands, là, Lissac, Goulon et Rapin, ils ont été les pionniers.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un service.
Ils ont demandé
à l'administration
Ils ont disséminé. Ils ont disséminé. C'est-à-dire que c'est comme un essaim d'abeilles. Hein. Rapin a été. On lui a construit un hôpital Henri Mondor en périphérie.
Oui.
Le professeur Goulon. On lui a créé un énorme service de réa sur un hôpital qui existait à Garches, où il y avait de la rééducation fonctionnelle. Et mon maître Jacques Lissac, qui est le dernier que j'ai vu, avait un service de réa qui me rappelait un peu la Réamed à Paris, parce qu'on couchait dans son bureau. il fumait, il partait de son bureau, il y avait un cendrier plein de palmales. Je me souviens, il fumait des palmales. Et donc lui, il était à Boussicault.
Oui.
Donc, qui a disparu.
Trois services.
Bah, trois services.
Mais il y avait des liens entre services, c'est-à-dire qu'il y avait des relations.
Bien sûr, ils se sont toujours connus, ces trois-là.
Ils travaillaient ensemble, en fait. Il y avait trois lieux, parce que Paris...
Ils travaillaient ensemble.
Ils communiquaient.
Oui.
Et alors, la spécialité au niveau universitaire a été créée comment? Parce qu'il a bien fallu la reconnaître, l'individualiser, faire un enseignement.
Petit à petit. N'étant pas finalement universitaire, ça m'a un peu échappé, mais ils ont eu des chefs de clinique. À l'époque, il y avait du boulot pour tout le monde. Il y a eu cette rivalité dont je t'ai parlé en province, parce que c'est une spécialité qui s'est imposée très vite à Paris, du fait du charisme de Rapin.
Puis de la ville et du recrutement.
Mais en même temps, parallèlement à ça, se créaient les SAMU.
C'est toute une émergence de la réanimation.
La réanimation a beaucoup évolué aussi. Les urgences sont devenues des empires, etc. etc. Hein.
Et alors, en province, c'était comment la réanimation?
Alors, en province, donc sur Nîmes, évidemment, avant que je sois là, il n'y avait personne. Il y avait à Montpellier... Un petit service de réamed dans le service de maladies infectieuses.
D'accord.
Comme à Paris, finalement. Ça a commencé dans les maladies infectieuses,
voilà.
Qui était le service du professeur Bertrand.
Bertrand, oui.
Voilà. Et qui a petit à petit continué un petit peu à faire de la réamed, mais qui n'a pas réussi à muter un professeur à Nîmes, quoi.
Voilà,
puisque finalement, c'est un interniste thérapeute qui est venu et qui a fait ce qu'il a pu, mais c'est pas vraiment...
Mais en fait, à Montpellier, quand même, il y avait un service de réanimation médicale.
Il y avait, et maintenant, il y a un énorme
pôle. Maintenant, on parle pas de maintenant, on parle de la préhistoire.
Je peux d'ailleurs saluer le professeur Kadaklouche, qui est responsable, que je connaissais pas et que j'ai rencontré à Vilnius, où j'avais une communication à faire. Il était plus jeune que moi, il m'a dit bonjour, c'est lui qui a payé le pot qu'on était en train de boire.
C'est sympathique. On le remercie pour toi. Donc voilà, alors maintenant il y a de la réanimation à Montpellier d'une manière... Et puis avec les communications, tout c'est... Le mot est choisi, nivelé, mais d'une manière positive. C'est-à-dire qu'on fait la réanimation médicale de même qualité à Montpellier qu'à Paris, qu'à Lyon, qu'à Strasbourg. Alors après, il y a des personnalités, il y a des organisations qui
Je vais dire oui, tu as raison dans le principe, mais c'est le grand absent pour beaucoup de la qualité, c'est le grand absent. Hein. Les indicateurs de la qualité des soins.
Oui, c'est un autre
problème. C'est un autre débat. Hein.
Alors, je vous propose une trêve musicale avec le concerto pour une voix de Saint-Preux qui date de 1969. J'ai essayé de ramener un peu la musique de l'époque. Rappelons que Saint-Preux est le pseudonyme de Christian Langlade, un compositeur, pianiste et chef d'orchestre français. Thank you. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Claude Gervais, qui, rappelons-le, est réanimateur médical. Alors, bon, on l'a déjà dit, mais à quelle date tu es arrivé à Nîmes ? Pas ton internat, mais ton clinica.
75,
tu t'es installé à Nîmes.
Ouais.
Donc, pas de service de réanimation. Tu viens en tant que praticien ?
Non, là, je viens en tant que chef de clinique.
Chef de clinique, ouais. Et donc en tant que chef de clinique...
Le service venait d'être ouvert.
Voilà, donc tu
j'ai fait 6 mois comme interne, hein, tu te souviens ?
Oui, 6 mois, puis après tu es venu comme chef de clinique, mais sans patron.
Bah, avec un...
Oui, avec un patron administratif...
Oui, mais qui assurait, il était abonné à des revues nord-américaines, c'était pas rien quand même.
Oui, il s'est intéressé quand même. Mais oui. C'est quand même toi qui étais le réanimateur médical.
J'étais d'astreinte tout le temps. Hein.
Voilà. Et alors voilà, comment ça se passait ?
Parce que ça se passait.
C'était loin des 35 heures, quoi.
J'étais d'astreinte tout le temps. Et j'avais des internes qui étaient des faisant fonction, qui sont devenus des futurs anesthésistes réanimateurs.
Alors, faisant fonction, c'est faisant fonction d'interne.
Ils étaient en 6e année, quoi.
Voilà. Bien souvent, alors maintenant, ça ne se fait plus du tout, parce que maintenant, c'est extrêmement compliqué. Mais même de mon temps, ça se faisait. C'est-à-dire que vous faisiez 6 ans de médecine.
Oui.
Enfin, d'études de médecine. Bon, après, il y avait. On était interne, et puis on choisissait ses stages, etc. Bon, mais quand vous étiez, même en cinquième, en fin de cinquième année, pour vous dire, alors qu'il y a. Moi, j'ai fait mon premier stage de cinquième année au SAMU. Moi, j'ai voulu faire. J'ai fait médecine pour faire la médecine. Donc, mon premier stage, cinquième année d'externe, on était vraiment externe. En quatrième année, on était étudiant hospitalier. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, dans le service de Charles Jambon, j'avais 4 lits, alors que les externes avaient 6. Donc, c'était un peu, on était des bébés. Et quand mon premier stage d'externe, j'ai choisi le SAMU. Avec Jacques Extor.
J'ai déjeuné avec lui hier.
Ah, il va bien ?
Oui.
Ah bon ? Et Romieux, qui était le patron, c'était sous la coupe de Madame Datis. Donc j'ai choisi, c'était donc cinquième année, pendant un mois, on était formés, etc. Et puis après, on allait sur n'importe quoi, si j'ose dire. Hein. Donc c'était quand même une autre époque maintenant, et on soignait pas mal, il faut reconnaître. Hein. Donc toi, tu as eu des. Alors les faisants fonctionnent internes, c'était des fois des étudiants qui étaient en fin de cinquième année, bien souvent, bon, cinquième année, pas encore, mais en sixième année, un patron avait besoin d'un interne pour des gardes, et il demande, est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'être interne ? Alors, il disait oui, donc il demandait à l'administration, il faisait fonction d'interne, et pas interne au sens administratif, mais il faisait fonction d'interne, mais dans la pratique, après, il faisait ce que les internes faisaient. Donc, c'était extrêmement formateur. Je me rappelle, on était en sixième année, et j'ai un copain de promotion qui est devenu FFI, c'est-à-dire fonction interne, en chirurgie, qui opérait tous les jours. Donc tu es arrivé, tu faisais la réanimation avec des internes, des fonctions d'internes. Et alors, est-ce que tu as eu des internes CHU montpelliérains ?
J'en ai eu. J'ai eu beaucoup de Nîmois.
Ouais.
Je ne pense pas que j'ai eu beaucoup de montpelliérains, mais je peux...
Des internes Nîmois. Fait que je pensais Montpellier, c'est université.
Non, mais j'ai eu beaucoup. J'ai eu... hier, je déjeunais avec Pierre Barbaste, il a fait anesthésie réa.
Ouais.
Mais en fait, il m'a appris hier, d'ailleurs, je n'étais pas au courant, il aurait voulu être médecin en réamed.
Ah.
Mais le patron Serge Fabre, on ne voulait pas parce qu'il avait fait anesthésie réa. Quoi.
Oui, c'est ça.
Il n'était plus royaliste que le roi, parce qu'il n'était pas réanimateur, Fabre.
Ouais.
Mais il ne m'a pas demandé mon avis. Quoi.
Oui, alors qu'il aurait dû.
Tu vois, bon, ce pauvre... j'ai eu Georgette.
Brosset, oui, qu'on a invité ici parce qu'elle a été la chef, la patronne de la douleur.
Oui, elle est
anesthésiste réanimateur, elle travaillait en chirurgie. Mais enfin,
et
bon,
puis, j'ai eu Christophe Avancès, qui est urologue, est venu comme interne.
Oui, qui est maintenant installé comme urologue.
Qui est interne des hôpitaux. Et puis d'autres, il y a
donc il y a beaucoup de médecins nîmois qui sont passés par ton service et par tes mains, par ta compétence, qui ont été formés. Et donc tu as créé un peu ce côté universitaire. Et tu as eu des chefs de clinique ?
Ben non, le problème c'est que on a été après Charles Ariche qui a pris mon poste de clinica.
Oui.
Il n'y a plus eu de chefs de clinique.
Ouais.
C'est un peu la rançon de la gloire, si je veux dire.
Ouais, ouais.
Parce qu'on a été pris dans le pôle ardu à Carrémaux, et on a un peu perdu de la... Parce que Fabre a fini par ne quitter
puisqu'il était pas... Il est parti à la retraite.
Il est parti à la retraite, je ne sais plus ce qu'il a fait. Maintenant, la Réamed fonctionne très bien. Il reste.
Alors, la question que je voulais te poser, est-ce que tu es quand même satisfait d'être parti de, alors, on ne dit pas de zéro, mais de 1 et d'avoir amené un service de réanimation?
Oui, je suis très content pour les patients, d'abord. Pour les collègues qui restent, le label médecine intensive, maintenant, ils sont tous baptisés médecine intensive réanimation médicale. Mmh. Et ça a été conservé par les responsables du pôle, c'est-à-dire Jean-Jacques et les gens, et que je salue, de même que Jean-Yves Delacoussay. Ça a été gardé, mais bon, c'est vrai que maintenant c'est quasiment que des. Laurent Muller est un anesthésiste réanimateur. Je pense qu'il y a que Montpellier qui a gardé, grâce à Cadaclouche, qui est l'ensemble de la réanimation médicale.
Alors, une fois le service installé à Carémont, quel a été ton rôle et qu'as-tu réalisé à Carémont?
Ben, je t'ai déjà dit que ce dont je suis content, c'est que j'ai réussi à convaincre mes collègues qu'il fallait que les réas fonctionne H24 avec un interne et un senior.
Voilà, c'est le côté personnel.
Ou le côté personnel, en fait. Tout le monde reconnaît qu'il a fallu que je convainque et que j'ai convaincu les collègues PH, parce que c'était une question de budget. Hein.
Oui, c'est ça, toujours. Il y avait
une question de budget. On a des patients toute la nuit, H24. Si les internes ne se forment pas la nuit dans un service de réa pour assurer les soins en présence d'un seigneur, c'est pas le seigneur de son lit, c'est une catastrophe. Quoi.
Oui. Je le dis souvent, mais je le rappelle, la médecine est un art éphémère. Hein. C'est ce qui trouble les médecins. D'ailleurs, les médecins à la retraite en souffrent beaucoup, parce que toute leur carrière n'existe plus, sauf dans la mémoire des patients et dans l'évolution des pathologies des patients. Mais c'est pas comme un écrivain ou un sculpteur. Mais c'est un art éphémère qui se fait à l'aide d'un maître, ou de maître avec un S. Quoi, hein. C'est-à-dire que l'étudiant choisit un maître qui accepte ou qui refuse, quoi, hein. Et on suit un maître. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a fait, ben, tiens, je travaille avec un tel. C'est pour ça que le choix des internes qui se faisait à Montpellier était très important, parce que pour les patrons, ça montrait l'aura qu'ils avaient. Parce que s'ils étaient choisis en dernier par les plus mauvais, c'est une évaluation. Il n'y a pas besoin de 5 étoiles. Quoi, hein, je veux dire. Parce qu'entre étudiants, on disait non, moi je ne veux pas aller chez machin, je ne veux pas chez truc. Et les premiers, on disait moi je veux prendre mon premier stage, etc. Donc c'était une évaluation. Les maîtres étaient évalués par leurs élèves. Ce n'était pas dit, mais c'était un fait. Et on choisit, moi, quand je voulais faire quelque chose et apprendre quelque chose, il y avait une personnalité. Et je disais, est-ce que je peux faire la visite avec vous? Est-ce que. Voilà. On parlait de Jacques Estor quand j'ai fait mon stage au SAMU. Je vous raconte une petite histoire de chasse, comme on dit entre nous. Au SAMU, on intubait. C'est-à-dire que si quelqu'un avait besoin d'intuber, on intubait. Il fallait mettre une canule trachéale, mettre sous oxygène, etc. Et évidemment, je n'avais jamais intubé. Donc, je lui ai dit, moi, je voudrais quand même apprendre à intuber. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a pris rendez-vous au bloc. C'était pour apprendre, quoi. Hein. Et il m'a dit, voilà, tu vas intuber les patients, professeur Lapéry, hein, à l'époque. Donc, j'étais avec un anesthésiste. Et j'ai fait 4-5 intubations et j'apprenais au bloc à intuber.
Ben oui.
Ce qui m'a permis d'intuber sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'on savait, après, quand on arrivait, on savait intuber. Et donc, l'anesthésiste qui était là, il m'a aidé. Une fois, je me rappelle, j'arrivais pas, il a mis un petit sur la hop et la canule. On apprenait et on choisissait. Voilà, Jacques Estor, pour ça, était parfait pour les étudiants que nous étions, mais évidemment, il n'était pas le seul et on choisissait nos maîtres. Et alors, maintenant que tu es à la retraite, tu te tiens au courant de l'évolution de la réanimation médicale. Je vois que tu manges avec des confrères, des amis.
Ben, en fait, depuis que je suis à la retraite, comme la plupart de mes anciens confrères, je retourne au CHU pour des raisons personnelles.
ça c'est bien, parce qu'on peut faire. Des fois, on est anxieux quand on. Tous les médecins, évidemment. Les médecins sont malades. Et les patients sont toujours étonnés.
Moi, je dis souvent à mes amis, moi, le CHU, c'est super, j'ai la carte du parti. Donc, quand j'y vais, on me reconnaît encore. Et je suis très content, ils ont des conditions de travail
qui sont pas comparables, incomparables avec ce qu'on a pu vivre.
Je veux dire, à l'époque, on peut pas comparer, quoi.
Pour vous dire, là, on enregistre, il y a la canicule sur la France, il faisait chaud, mais le CHU Rioche n'était pas climatisé. C'est-à-dire qu'on était nus sous les blouses, alors un pantalon quand même, mais on était torse nu sur les blouses. Tout le monde choisissait les blouses en coton qui se aiment parce que, évidemment, c'était mieux pour la chaleur. Et donc, les patients dans les lits n'étaient pas pas conditionné. Il y avait pas d'air conditionné.
Je m'en souviens pas trop de ça, moi, tu vois.
Ah ouais, c'était ahurissant, quoi. Mmh. Au niveau chaleur, c'était bon, parce qu'il n'y avait pas de crise de pétrole, donc il y avait des gros radiateurs, ouais. il faisait bon. Mais au niveau de la chaleur, l'été, c'était...
Non, mais on a eu la chance de Carémo...
Alors qu'à Carémo, c'est climatisé partout.
Par les inondations, hein. Peut-être que ça aurait duré plus longtemps.
Mais c'était prévu, parce que j'ai fait un peu l'histoire des... Oui. C'était prévu, mais les inondations... Moi, j'étais de garde lors des inondations comme interne. J'étais de garde, là encore une histoire de chasse, en 88, lors des inondations. Alors, pas le jour de l'inondation, mais deux jours après, je crois, j'étais de garde de médecine. Alors, j'ai rien fait, parce que personne ne venait au CHU, parce qu'on me parlait de centaines de morts, etc., etc. Et je me rappelle, à la fin de la garde, le ministre était venu, donc j'étais un des rares praticiens à avoir passé la nuit à travailler, donc il a dit bonjour à tout le monde, à tous les chefs de service qui étaient en costume, tout ça. Moi, j'étais avec ma blouse plus ou moins débraillée, mais personne n'est venu me dire bonjour. C'était une expérience unique. Alors, la radiologie qui était en sous-sol au Rioche a été complètement inondée, ce qui a fallu mettre des préfabriqués pour faire la radiologie. Donc, ça a accéléré, bien évidemment... Le départ vers Carémo, vers un outil, c'est comme me disait le directeur Mazereau, bel outil. Alors là, la climatisation, parce qu'il faut amener une veste, parce qu'il fait trop froid. Eh bien, cher Claude, merci une nouvelle fois à toi pour cette passionnante histoire qui a touché l'hôpital Nîmois et l'histoire de la médecine nîmoise. Et parce que tu as vécu la médecine française et tu as apporté cette histoire au sein de l'hôpital de Nîmes, qui est devenu le CHU de Nîmes. Merci de ta présence et de ta disponibilité.
Merci à toi.
J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé à Claude Gervais de nous citer un livre sur l'histoire de la réanimation médicale. Est-ce qu'il y en a d'abord ?
Il y a des articles. Il y a l'histoire de la réanimation médicale. Il y en a plusieurs, en fait. Mais le dernier que j'ai lu, c'est un article paru dans la revue de médecine, donc qui n'est pas accessible au commun des mortels.
Oui, il faut être abonné.
Il faut être sans doute abonné.
Merci beaucoup à toi. Je remercie Louis à la technique et Chanel Visuel et toute l'équipe de Radio Alliance Plus. Je vous renouvelle aussi mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé d'un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.